Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
La seule incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans la continuité du Campus Info de Graziella, et bien tous les premiers et troisièmes vendredis du mois, il y a Source, l'émission du libre, l'émission des libres, l'émission d'où les différents formules et formats de ce mot qui enchérit notre belle université, certes, mais qui est lié au monde du logiciel, au monde de licence, au monde de l'art, au monde du hardware. Oui, il y a aussi du hardware libre, comme il y a du software libre. Et bien tout cela, on va en parler dans cette petite heure et demie et vous rappeler qu'il y a quand même quelques actions à faire. Il y a bien des pétitions à signer pour sauver la planète. Oui, ça c'était la grande journée d'aujourd'hui, certes, mais il y a d'autres actions qui nous pendent au nez si la Commission européenne se mettait à signer des lois qui veulent absolument nous protéger contre les atteintes de certains terroristes. Et évidemment, Internet est le grand méchant endroit où tout cela se passe. Et si on contrôle tout ça, eh bien on contrôle les terroristes. Eh bien, c'est peut-être vrai en théorie, mais en pratique, ça ne se verra jamais. Voilà, notamment ceci, puis Smeg aussi, on en parlera un petit peu. Elekin nous a rejoint et on va se faire un plaisir de vous mettre en jambe pour différentes actions dans Bruxelles, dans les internets, dans les médias sociaux libres et tout ce genre de petites panoplies qui font que la vie est belle. Et donc, il y a, pour commencer, voilà un petit l'envie de contrôler le net. Bon, ça se fait effectivement avec des algorithmes. C'est ce que Microsoft, Twitter, Facebook et Google sont venus déblatérer à la communauté européenne. Mais quand ce n'est pas le cas, eh bien, il y a bien des vrais gens qui font que vos petits médias sociaux actuels, très commerciaux, très industriels et très remplis de Roundup, font qu'en fait, il y a des gens derrière qui bossent un peu. Et je me suis piqué d'aller rechercher un extrait, de ce que Sonia De Villers fait sur France Inter dans l'Instant M. Et elle va peut-être vous persuader que pour ne pas devoir utiliser des algorithmes et encore moins des pauvres humains qui sont payés pour des trois fois rien, eh bien il y a moyen d'utiliser d'autres médias sociaux qui fonctionnent sans algorithme parce qu'il n'y a pas vraiment de business plan derrière qui cherche à s'accaparer vos données personnelles et à les revendre. Donc voilà, je vous laisse un petit instant entre les oreilles, entre les mains de Sonia De Villers, le temps de prendre place en studio, que les invités quittent et prennent place que nous aussi. Donc du coup voilà, ça veut toujours dire que on a toujours qu'un studio et qu'une régie hier de campus, nos chantiers ne sont pas encore terminés.
Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes,
you are fake news.
Il est 9h40 sur France Inter et l'Instant M est de retour dans vos oreilles.
Vous coupez ?
Non,
vous
coupez.
Vous êtes en direct, allez-y.
Enquête et réflexion passionnante que celle du chercheur Antonio Casilli. Les plateformes du nouveau monde que sont par exemple Amazon, Facebook, YouTube ou Twitter nous feraient à dessein miroiter des algorithmes surpuissants, capables bientôt, on en a peur, de gouverner les envies et les opinions de 7 milliards d'êtres humains. Mirage. C'est sans compter une armée invisible d'hommes et de femmes qui travaillent de leurs doigts, oui, de leurs doigts, à cliquer toute la journée. Des volontaires bien heureux de poster, de liker ou de partager, mais aussi des prolétaires sous-payés pour faire et défaire tout ce qui circule sur le web. Les robots n'auront pas tôt fait de remplacer le travail des hommes. En revanche, et c'est une question sociale et politique brûlante, ils le transforment, ce travail. À la manœuvre, les grandes plateformes d'Internet qui mentent sur leur modèle économique pour mieux masquer ce qui les enrichit en réalité.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Antonio Casilli.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes professeur à l'école Télécom Paris Tech. En attendant les robots, c'est le titre de votre ouvrage, sous-titre Enquête sur le travail du clic. Il vient de paraître aux éditions du Seuil, c'est un travail universitaire, c'est très très dense, c'est très précis, mais ça se lit parce que c'est passionnant. Donc je le dis, puis en plus vous avez fait tout un travail introductif qui résume tous les arches, les axes et les sous-divisions de votre partie pour guider le lecteur dans votre publication. Un mot sur l'information des médias, sur l'actualité des médias, pardon, et puis on y vient évidemment. Une disparition pour démarrer cette émission, celle de Xavier Gouillou-Beauchamp. Il fut l'ancien patron de France Télévisions en 1996. Il avait commencé par servir l'État auprès de deux ministres, Edgar Faure d'abord, puis Valéry Giscard d'Estaing, avant de devenir chef du service de presse à l'Élysée au mi-temps des années 70. Il travailla à la privatisation de TF1 aux côtés de François Léotard. À la tête de France Télévisions, il fut à l'origine de nombreux nouveaux programmes, des Racines et des Selles notamment. Ce fut sous sa gouvernance, il inaugura, pardonnez-moi, entre autres, l'immense bâtiment qui réunit maintenant tous les salariés de la télévision publique. Auparavant, ils étaient éparpillés en région parisienne. Ils sont aujourd'hui dans le 15e arrondissement. Non, la presse ne doit pas être un bouc émissaire. 34 sociétés de journalistes font entendre leur voix dans une tribune après un nouveau week-end de violence contre des reporters. Vous en a parlé beaucoup ici dans l'Instant M. Des sièges de journaux et des livreurs de journaux. La publication d'un texte commun, donc, qui précise ceci, je cite, « Dans un climat de défiance vis-à-vis des médias, la critique est nécessaire. La presse n'est pas exempte de reproches et les journalistes sur le terrain sont les premiers à s'interroger au quotidien sur la manière la plus juste et la plus honnête de couvrir l'actualité. Bref, ça sert à rien de leur péter la gueule.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Voilà, l'invité du jour s'appelle Antonio Casilli, il est sociologue et chercheur. Antonio Casilli, le grand remplacement technologique n'aura pas lieu, en gros c'est ce que vous nous dites. Les machines, les robots, l'intelligence artificielle, les algorithmes, appelons-les comme on veut finalement, ont besoin du travail des hommes. C'est ce qu'on apprend en vous lisant. Ils ont besoin du travail des hommes, pourquoi ? Pour collecter des données, pour en nourrir la machine, pour lui faire apprendre à reconnaître et à savoir quoi en faire de ces données. Bref, pour entraîner la machine.
Oui, en effet. Alors, évidemment, si on dit comme ça, le grand remplacement ne va pas avoir lieu. Disons que on donne presque l'impression que mon livre est iréniste, qu'il cherche à véhiculer un message de paix, amour et sérénité. Au contraire, j'insiste beaucoup sur le fait que même si les robots ne vont pas remplacer les êtres humains au travail, et le travail ne va pas disparaître, ceci n'est pas une bonne nouvelle, parce que l'intelligence artificielle, quoique largement fantasmée en tant que technologie, a des effets très concrets sur le travail et surtout sur l'emploi.
Alors il faut expliquer ce que c'est que la digitalisation du travail. Et dans digital, on l'oublie souvent, il y a le mot « doigt ». Seuls 9% des emplois sont menacés de disparition, écrivez-vous, par l'automatisation. 50% en revanche sont directement concernés par sa transformation. Voilà, donc le problème, ça n'est pas la disparition du travail, mais sa digitalisation. C'est-à-dire le travail de la main remplacé par celui du doigt. Le doigt qui clique sur l'écran ou qui clique sur la souris. Ça, c'est une métamorphose.
Mais c'est une métamorphose surtout parce que on nous a habitués à concevoir la transformation du travail sous l'angle du numérique. Et même si on veut faire un peu de l'étymologie de base, en latin, numerus renvoie évidemment à l'esprit qui calcule, donc évidemment à des technologies faites par des scientifiques, des algorithmiciens, des mathématiciens. Au contraire, les technologies sont régies par des armées de l'ombre ou des armées invisibles ou invisibilisées, de personnes qui finalement font du digital, j'insiste, encore une fois, parce que il parce que digitus en latin, voilà, c'est effectivement le doigt qui clique, et c'est important pour pouvoir générer des données, pour pouvoir créer des données, pour pouvoir aussi faire tout ce qu'on fait chaque jour sur nos applications mobiles, sur nos écrans.
Est-ce que vous reconnaissez cette musique? Vous reconnaissez?
C'est le film de Walt Disney.
Non, c'est Charlie Chaplin. C'est les temps modernes. On l'écoute. C'est le symbole au cinéma de ce qu'on a appelé la taylorisation, c'est-à-dire la fragmentation du travail hein, avec la révolution industrielle au 19e siècle. Vous, vous expliquez que le travail de la digitalisation, il est différent. Néanmoins, on fragmente les tâches, on les fragmente jusqu'à ce qu'elles deviennent minuscules, parce que le clic, c'est une tâche minuscule, c'est une tâche tellement fractionnée que c'est une tâche de tâcheron, oui. Finalement.
Oui. En effet, c'est la logique de la taylorisation, donc oui. Finalement de la homogénéisation, de la fragmentation de l'activité humaine poussée à l'extrême. Oui. Parce que si les usines de l'époque de Chaplin pouvaient rassembler effectivement des chaînes dans lesquelles on montait, on vissait, on faisait, donc on produisait des produits concrets, matériels, là, aujourd'hui, on a besoin surtout de produire des services et donc de passer par des activités qui sont encore plus fragmentées et encore plus homogénéisées. Parce que justement, et c'est ça l'idée de la remplaçabilité, non pas par les robots, mais des êtres humains, par d'autres êtres humains qui sont moins payés, qui sont moins bien encadrés d'un point de vue formel, et ben effectivement, il faut faire en sorte que n'importe qui puisse réaliser ses tâches.
Mais alors vraiment, n'importe qui, on va en parler. On va commencer, Antonio Casilli, parce que c'est extrêmement troublant, ça nous concerne presque tous, par le travail heureux et volontaire que nous tous, nous fournissons bénévolement, gratuitement, pour les plateformes que sont Twitter, YouTube et Facebook. Nous, les utilisateurs. Nous travaillons, c'est ce que vous dites, nous travaillons pour ces plateformes, nous travaillons sans s'en rendre compte. On va commencer par ces opportunités incroyables que nous offrent ces réseaux sociaux, par exemple. Se faire entendre, se faire connaître, entrer en contact. En ce moment, les Gilets jaunes, pour ne parler que d'eux, s'en saisissent avec joie. Ils postent des photos, des vidéos, des textes. Ils sont contents de pouvoir répondre, de liker, de partager, de créer des forums, des chats groupés, des groupes. On en écoute, hein, par exemple.
Salut à tous. Bon, je ferai un live pas très très long, je vais essayer de répondre à quelques questions. Juste pour vous expliquer comment ça va se passer après un peu, on est en train de faire remonter tout ce qui peut se passer. Toutes les réactions des gens par rapport à ce qui s'est passé ce week-end et par rapport à la lettre d'Emmanuel Macron de tout à l'heure.
Voilà, on le sent bien. C'est une opportunité formidable et voilà Maxime Nicole, un des leaders des Gilets jaunes, qui dit à quel point il est heureux de pouvoir participer à tout ce travail du doigt, du clic.
Alors, n'importe quelle technologie, comme on le sait depuis longtemps, fait deux choses. D'une part, c'est aider la circulation d'informations. Les Anglais disent « informate ». Et l'autre, par contre, c'est aussi aider l'automatisation de certains processus métiers. Automate, on dirait en anglais. Et donc, du coup, des technologies comme des plateformes sociales à la Facebook, mais n'importe quelle autre plateforme sociale, YouTube, Instagram, et ainsi de suite, d'une part, cherchent à provoquer cette circulation de l'information et les usagers peuvent aussi en profiter. Les usagers peuvent en profiter de mille manières. D'une part pour s'enrichir du point de vue de leur connaissance ou de leur sociabilité, mais aussi de s'enrichir d'un point de vue matériel parce que certains sont bien capables de monétiser ce qu'ils font sur ces plateformes. Donc pensez aux influenceurs ou aux influenceuses d'Instagram, pensez aux vidéastes de YouTube.
Ils sont rétribués.
Ils arrivent à trouver
Certains sont rétribués. Pourquoi ? Parce que derrière, ça peut rapporter énormément d'argent à YouTube et consorts. C'est extrêmement intéressant. Faut-il, par exemple, rétribuer tous les contributeurs bénévoles de Wikipédia, alors que Wikipédia est une fondation à but non lucratif. Sauf que Wikipédia est associée à Google et à Facebook, qui eux se font beaucoup d'argent avec le contenu.
J'insiste beaucoup sur le fait que Wikipédia est un cas un peu difficile. À juger de ce point de vue-là. Wikipédia
reste
une encyclopédie libre et reste surtout une fondation non-profit derrière. Après, la question est que Google s'approprie ou plutôt est capable de agressivement de récupérer les données produites par les Wikipédiens et s'en servir typiquement pour nous donner des résultats son moteur de recherche. Parce que quand vous cherchez n'importe quoi sur le moteur de recherche de Google, depuis quelques années, la la première chose qui s'affiche, c'est une petite fiche.
Et Google n'est pas une entreprise à but non lucratif. Voilà.
C'est exactement ça le problème.
Par ailleurs, vous parlez des data brokers, ces entreprises qui croisent des infos à partir des médias, à partir des agences de pub, des administrations publiques, des internets, des infos sur notre santé, nos opinions publiques, nos orientations sexuelles, nos croyances religieuses, nos croyances politiques. Vous dites « Facebook contribue au traçage des habitudes de 500 millions d'internautes ».
Oui, donc Facebook n'est que l'un des problèmes qu'on peut avoir quand on parle de cette économie des données. Les data brokers, donc ces intermédiaires, ces courtiers en données, sont des entreprises dont on commence à peine à deviner l'existence. Il y a eu 2-3 rapports de différents gouvernements qui ont cherché à pointer du doigt la responsabilité de, par exemple, de certains data brokers dans des scandales comme celui de Cambridge Analytica, parce que elles mettent en place ces structures des modèles d'affaires qui provoquent des incitations à avoir des pratiques abusives comme celle de collecter les données de millions de personnes, comme dans le cas de Cambridge Analytica encore une fois, pour les cibler avec de la communication politique
de la biaisée. Propagande de la propagande, absolument.
Et donc c'est pas seulement en politique qu'elles peuvent avoir un impact. Les habitudes de consommation et en général même de d'accès à l'information sont influencées par ces data brokers, lesquels cherchent grosso modo à créer des profils de chacun d'entre nous et ainsi faisant donc nous cantonner dans certaines visions qu'ils peuvent avoir de ce que nous allons faire.
Bref, ce que je comprends, c'est qu'on est tous des travailleurs bénévoles, on travaille tous gratuitement en postant, likant, partageant, discutant sur les réseaux sociaux, etc. Mais que notre travail, il a beau être gratuit, il a beau être bénévole, il produit de la valeur et que d'autres savent parfaitement capter cette valeur. Ce que vous expliquez très bien, c'est qu'il y a une forme de continuum, de continuité entre ce travail libre et bienheureux de gens qui ont le temps et les ressources, essentiellement dans les pays du Nord. Et puis, il y a aussi un travail qui n'est pas un travail libre et heureux et voulu, un travail externalisé, délocalisé, sous-payé, dans l'hémisphère sud. Je vous fais écouter un extrait du JT de France 2 qui s'est rendu à New Delhi. Des journalistes se faisaient passer pour un entrepreneur qui lance un resto à Paris.
En enfilade, 150 ordinateurs et autant d'employés chargés de cliquer à longueur de journée sur les pages de leurs clients. C'est ce que l'on appelle une usine à clics. Ils utilisent des faux profils créés spécialement. Et c'est ce qu'ils proposent de faire pour nous. Nous allons créer des profils avec des noms français, de personnes françaises. Et ensuite, nous allons utiliser ces profils pour faire des commentaires sur votre page, pour que ça semble plus vrai.
Voilà, les commanditaires, vous dites-vous, sont majoritairement aux États-Unis, au Canada, en Australie, en France, en Angleterre, un peu ou ailleurs en Grande-Bretagne. Les exécutants aux Philippines, au Pakistan, en Inde, en Indonésie, au Bangladesh, en Roumanie. Bref, même une start-up étudiante, là on parle plus de plateformes gigantesques, de plateformes monde, mais même une start-up étudiante peut délocaliser ses micro-tâches, même pour quelques heures, dans les pays du Sud. Il faut que vous nous expliquiez ce que sont les fermes à clics et les moulins à contenu.
Alors, les fermes à clics sont des, comme le nom l'indique, des usines à viralité. C'est la première chose qu'elles font. Donc elles provoquent de la fausse viralité, des faux visionnages sur YouTube, des faux likes sur Facebook. Elles rassemblent à quoi? Souvent, elles ont pignon sur rue, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment une structure physique. En Chine, par exemple, c'est des anciennes usines désaffectées et recyclées, transformées. Imaginez-vous une salle énorme avec des centaines de postes de PC et des personnes qui, à longueur de journée, cliquent sur des images ou sur des contenus, ou même écrivent parfois ces contenus.
Et pourquoi ils écrivent? C'est très intéressant, parce que vous dites qu'ils sont rémunérés quand ils ont à écrire des contenus entre 0,1 centime de dollar et 3 dollars le mot. Pourquoi ces mots, ils ne sont pas destinés à être lus par des humains, ils sont destinés à être reconnus par des robots pour faire monter le référencement de pages de matière totalement artificielle?
C'est exactement ça, et c'est aussi une manière de dire que quand on dit par exemple que Facebook ou YouTube c'est du travail travail gratuit. Et là, dans ce livre, je fais vraiment un effort supplémentaire pour montrer que c'est pas gratuit pour tout le monde. Et surtout, il n'y a pas que du plaisir, du partage pour tout le monde. Nous vivons dans des pays et nous avons aussi un revenu souvent qui nous permet de nous adonner à des loisirs, sur ces, ou alors au moins de percevoir ces activités de contribution comme du loisir, alors que d'autres personnes en font effectivement leur gagne-pain, leur revenu primaire. Il s'agit souvent de pays comme justement les Philippines, mais aussi, il ne faut pas oublier, pour la France, c'est surtout l'Afrique, c'est le Madagascar, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Tunisie, des pays dans lesquels le revenu ou le salaire moyen est moins important qu'en France. Et dans un pays comme Madagascar, par exemple, vous avez un salaire moyen mensuel de 40 euros, l'équivalent de 40 euros. Et effectivement, si vous arrivez à gagner 20, 30 euros par mois en faisant du clic, vous avez quelque chose qui est un bon complément de salaire, voire dans certains cas, un bon remplacement de votre salaire.
Il faut parler aussi des modérateurs, parce qu'il y a ceux qui cliquent pour fabriquer de la donnée et pour faire advenir quelque chose. Il y a ceux aussi qui sont payés pour supprimer ce qui circule sur Internet, quelques centaines de quelques centimes, le clic de suppression, avec parfois des conséquences désastreuses sur leur santé mentale. Il faut bien imaginer que nous nous délestons, écrivez-vous, de nos déchets technologiques, que ces gens-là sont confrontés aux vidéos et aux photos d'une violence et d'une pornographie qu'on n'imagine pas, et surtout on n'imagine pas ce que c'est que d'y être soumis toute la journée.
Oui, et ça c'est un bel exemple de à quel point cette économie des plateformes nous met face à une espèce de guerre entre prolétaires du clic. D'une part, des prolétaires qui provoquent ou qui créent des contenus qui ont vocation virale et qui donc doivent être un peu choquants parfois. Des fake news ou justement des images violentes. Et de l'autre côté, par contre, des personnes qui sont micro-payées, voire très très faiblement payées, pour regarder, pour modérer, pour filtrer ces images. Donc deux choses à propos de cette modération sont importantes à souligner. La première est que ces modérateurs sont eux-mêmes en train d'entraîner des algorithmes de filtrage qui par la suite vont apprendre justement à départager des images qui ne sont pas appropriées par rapport à d'autres images qui peuvent par contre circuler. Et la deuxième question est que les modérateurs sont un bel exemple de la continuité entre notre travail à nous, d'usagers lambda, et le travail de personnes qui sont payées. Parce que d'un certain point de vue, nous aussi, à chaque fois que nous bloquons quelqu'un sur Twitter, à chaque fois que nous
signalons...
On
travaille à modérer le web, que nous, on travaille bénévolement, gratuitement.
Nous lançons une alerte et par la suite, quelqu'un va s'occuper de modérer un contenu qui a été signalé. Donc il y a vraiment une continuité, une véritable chaîne de montage ou de démontage de certains contenus.
Un tout dernier mot pour ce résumé, Antonio Casilli. Les plateformes qu'on vient de citer, Google, Facebook, Twitter, etc., n'aiment pas parler du tout de ce rôle de l'homme.
Oui,
elles font tout pour le masquer, pour en masquer la pénibilité.
Elle aime mettre en évidence, d'une part, évidemment, leur prouesse technologique. Donc, elle parle plutôt, évidemment, de leur algorithme, de leur drone, et ainsi de suite. De l'autre côté, elle insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y a que du plaisir, il n'y a que de la bienveillance, il n'y a que la participation d'intelligence collective. Et estompe systématiquement tout élément de pénibilité que, par contre, d'autres personnes, il y a de plus en plus de sociologues, psychologues, qui s'efforcent désormais de montrer que, pour pas mal de personnes, Facebook peut être aussi une lourde responsabilité à porter.
Merci beaucoup Antonio Casilli. En attendant, les robots vient de paraître au Seuil. On vous le recommande chaudement.
Merci chers collègues de France Inter. Merci Sonia De Villers. Merci Antonio Casilli pour cette mise en bouche. Donc voilà, effectivement, des fermaclics contre le permafrost. On ne serait pas obligé de devoir manifester pour la grève du climat comme aujourd'hui. Donc voilà, Elekin, bien le bonsoir.
Ouais,
Peter.
Voilà. Maintenant, tu peux vraiment dire bonsoir. Tu vois une petite lumière rouge qui s'allume, c'est magique.
Salut Frédux. Salut chers auditeurs. Et Tris.
Bien entendu. Oh, ce sont les
Et meilleurs. Tout ce qu'il y a entre les Teurs et les Tris, d'ailleurs.
C'est accepté. On prend ça dans source. L'émission du ou des libres de Radio Campus, la radio de la communauté d'université libre de Bruxelles. Nous sommes donc ensemble jusqu'à un petit peu plus que 19h30 pour attraper notre retard de départ. Mais voilà, donc c'est fermaclic, ça t'inspire des... Ah non, attends, on avait dit qu'on commençait d'abord par une enquête publique.
Justement,
le SMEG.
Non, justement, je trouve que les fermaclics et la remarque de ce monsieur sociologue
Casilli.
sur le rôle des humains, eh ben, je suis tombé sur un truc, merci Masto, sur le Média TV. Je vais juste vous passer 10 secondes de la bande-son parce que c'est juste incroyable.
Mmh. Ah, on est parti dans du son, on continue dans du son.
Bon voilà, c'est à l'heure du grand débat national en France, la réaction de nos chers amis de la police qui sautent littéralement sur un militant qui était venu interpeller Muriel Péricot. Ils lui ont sauté dessus et le mec il était sous un comme au rugby dans Obélix et Astérix, tu vois, où ils se mettent les uns sur les autres comme ça. Voilà. Bah ça du coup il n'y a pas besoin d'algorithme mais ça marche très bien. C'était un petit message macroniste.
Bien, mais non, revenons d'abord à cette pédagogie du bouquin que tu as déniché,
ouais,
et qui t'intéresse à plus d'un titre, mais surtout la dernière couverture,
ouais,
où il y a une intrigue.
On voulait commencer par quelque chose d'un peu positif dans cette émission, parce que quand même, c'est lourd. Et voilà, donc je tombe sur ce bouquin de Laurence de Kock et Irène Pereira, Les pédagogies critiques, qui vient de sortir chez Agon, et je tombe sur cette dernière page qui dit « Cet ouvrage a été préparé grâce à des logiciels libres, assemblés dans la suite informatique SMAG 0.6 et mis en page sous Zelatech. » Alors, SMAG 0.6, S-M-A-G tout en majuscule, ça a l'air d'être un acronyme, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, si les auditrices et les auditeurs savent ce que c'est, merci de nous renseigner sur le mastodon de source.
De source, at poète.it, comme l'Italie ou comme les Haïti, au choix. Et on pourra peut-être même lancer notre petit salon IRC. Ça fait beaucoup de paramètres à contrôler, mais on peut se retrouver sur...
On peut se retrouver sur IRC.
Sur IRC également. Allez, soyons fous, c'est vendredi, c'est pas toujours le jour du troll, mais en tout cas, là, le freenode.net, vous allez trouver un petit salon qui s'appelle Source et avec lequel vous pouvez nous joindre. L'autre possibilité, c'est un framatalk.org / source, comme il se doit. Bon, on va pas trop mélanger les serviettes et les tâcherons, comme il en était fort question dans ce documentaire. Voilà, c'est vrai que c'est un grand moment critique pour la planète, parce qu'aujourd'hui, ça manifestait dans plus de 90 pays. Je n'ai point les sources, les chiffres exacts des mobilisations planétaires, mais c'est un grand fiasco pour le libéralisme. On devrait être tous contents sur Terre, tout le monde a un petit peu de sous.
C'est un peu rapide parce que les médias ont tendance à amplifier énormément ce qui se passe. On en discutait hier avec Natacha justement sur, par exemple, le mouvement des Gazap et des AMAP. Tout le mouvement sur l'agriculture de proximité, l'alimentation... saine, etc. Je crois que tout le monde en a entendu parler, c'est pas quelque chose de très caché. En revanche, ça représente 135 000 personnes en Belgique.
Mmh. Combien ?
135 000.
135 000.
C'est ridicule.
Ok. Ouais.
C'est un peu comme le niveau de financement européen consacré au logiciel libre.
Ouais, donc tu veux dire...
C'est ridicule.
Pire qu'une croûte de pain.
C'est ça.
Une nanomiette.
C'est ça. On est dans les nanotechnologies, là, pour le coup. Uh-huh. C'est bien triste, mais il faut voir aussi la symétrie. La symétrie est grande.
Ouais. Bien, donc, voilà, c'est sûr que on est dans deux poids et deux mesures. Et dans des soucis d'échelle. Mais le fait, donc, l'appel est lancé pour SMEG 0.6, si vous avez une connaissance plus approfondie, parce qu'on a un petit peu cherché sur les internets avant de commencer notre émission. Et ça ne renvoyait pas, voilà, ce sont des développeurs de l'ombre, hein, un petit peu comme ces armées de l'ombre qui sont aux Philippines ou dans des endroits où on est très content de gagner 0,00005 CFA pour avoir fait un clic. Ouais. Et voilà, il faut en faire 300 de l'heure pour avoir un tout petit peu l'impression de gagner sa vie. Sinon, on est dans l'uberisation de l'ombre et du digital.
Ça fait un paquet de Bruce Lee. Hein. Tu te souviens, Bruce Lee faisait ça avec son doigt
ouais.
Et il cassait une brique.
Ouais.
Tu vas voir les cliqueurs quand ils vont se mettre à mettre des coups de doigt dans les boucliers de CRS, ça va faire rigolo.
Ouais. Alors, ce qui nous a occupé aussi pour aujourd'hui, c'était donc une réelle potentialité de gel de l'Internet si une loi qui devrait passer du côté du 21 mars, c'est dans très très pas longtemps en tout cas. Donc il y en a deux, il y a l'article 13 par rapport au filtre de téléchargement, donc ça c'est la communauté européenne qui a mis ça en route, mais c'était surtout celui du règlement terroriste qui est le plus fifou. Parce que c'est une volonté franco-allemande de protéger le bien-être des 360 millions d'Européens que nous sommes. Et c'est que la volonté de prendre le problème à la base, eh bien, n'est pas le temps qu'une information reste sur Internet, mais effectivement, calculer à ce moment-là le nombre de personnes qui auraient le temps de la lire. Mais bon, bien sûr, c'est son contenu. Donc, il faut savoir que la genèse du projet, on peut la retrouver sur la Quadrature du Net, qui est un groupuscule d'empêcheurs de cliquer en rond français. Et ils ont toute une série de veilles et de miradors qui inspectent toutes les dérives et les conneries que nos dirigeants peuvent éventuellement mettre en place. Mais donc, ils présentent la genèse du projet de cette loi antiterroriste du net. Donc, en décembre 2015, en réaction à une série d'attaques terroristes en Europe, la Commission européenne a annoncé la création du Forum de l'Internet européen, qui réunirait Europol, donc l'agence européenne de police, les ministères de l'Intérieur des États européens, ainsi que Facebook, Google, Microsoft et Twitter, dans le but de chercher une solution pour, ouvrez les guillemets, protéger le public de la diffusion de contenus terroristes. Fermez les guillemets. Alors, en juin 2017, la Commission européenne fait un premier bilan pour se féliciter de l'initiative menée par l'industrie de créer une base d'empreintes numériques qui garantit qu'un contenu terroriste retiré sur une plateforme ne soit pas remis en ligne sur une autre plateforme. Et la Commission demande à ce moment-là que les plateformes fassent davantage, notamment en mettant à niveau la détection automatique de contenus terroristes, en partageant les technologies et les outils concernés avec de plus petites entreprises et en utilisant pleinement la base d'empreintes numériques.
Bon.
Voilà, on commence par ces deux premiers petits chapitres.
Moi, je me demande bien comment ils vont différencier des contenus terroristes de contenus de recherche sur le terrorisme.
Voilà, déjà, ça viendra plus tard après dans les contre-arguments, parce qu'il y en a une flopée. Mmh. Mais bingo, tu as effectivement gagné la floche, parce que une petite tranche de cerveau là, parce que tu as tapé dans le mille, il y a effectivement de ça. Et puis ça se base uniquement sur des empreintes numériques, donc ce sont les fameux hashtags, enfin pas le tag directement, mais en tout cas le fait qu'une vidéo faisant l'apologie d'un certain djihadisme ou d'un certain fondamentalisme, eh bien, de par sa durée, des rapports à sa forme, à sa dimension et à sa résolution, ben, aura une empreinte numérique typique et qui va donc se retrouver nécessairement, si on poste une fois sur Twitter et puis une fois sur Facebook, on le retrouve. Mais il suffit d'amputer une seconde de cette vidéo pour que le hash change totalement, je pense.
Ah bah oui.
Mécaniquement parlant.
Bah oui.
En toute mécanique de petits zéros et de petits uns.
Tu changes un bit, ça suffit.
Voilà, ok. Donc déjà là, voilà. Mais c'est embêtant parce que je lisais un petit peu plus loin, donc dans le...
Mais ne t'inquiète pas, il y a des intelligences artificielles qui savent apprendre et reconnaître le terrorisme.
Oui.
Du coup, par exemple, il y a cette base de données d'images que m'a montré Natacha l'autre jour, où faudrait que je retrouve ça. C'est, on mettra ça dans les liens de l'émission. Donc l'idée, c'est que tu as une base de données d'images et une intelligence artificielle. Tu uploads une image sur ce système et l'intelligence artificielle, à partir de sa base, va reconnaître des visages, des types physiques, un peu comme ce qu'il y a dans le musée de la colonisation, la Tervuren.
Tervuren, oui.
On mesure les crânes pour démontrer que les Noirs sont d'une race différente, tout ça. Toute la science colonialiste qui supportait le racisme colonialiste, maintenant, elle crée les systèmes numériques demain. On a fait un exemple, c'était très amusant, où il y avait une série de photos de portraits, en fait. C'est une collection de portraits de gens qui venaient de différentes cultures. Et l'intelligence artificielle a encadré un portrait en mettant comme commentaire « rape suspect », c'est-à-dire « suspect de viol ». Donc, comment tu peux reconnaître un suspect de viol visuellement ? Moi, j'en sais rien. C'est pas très probant comme exemple, mais apparemment, cette intelligence artificielle était nourrie
De films, de séries
de préjudice.
Des années 70, sans doute. S'il faut alimenter la...
Et je te garantis que le suspect de viol, il ressemblait pas à DSK.
D'accord, je vois, effectivement. C'est, ça va être chouette de se dire, bon, avant, on pouvait dire avant, l'erreur est humaine, mais maintenant, on va devoir pouvoir prouver que l'erreur est logicielle.
Ouais.
Et ça va être chouette de dire, ah non, c'est pas nous les humains, c'est la machine qui a ou buggé, ou alors, effectivement, il y a des machines qui commencent à avoir des humeurs. Hein ? Ça commence à me faire peur. Alors non, pour continuer, non pas vous faire peur, mais c'est pour terminer un petit peu la genèse du projet de cette tâche où il y a effectivement les tâcherons du clic, dont vous avez entendu le lien vers l'entrevue de Sonia de Villers avec Antonio Cassini. Donc c'est que le fonctionnement technique de cette base d'empreintes numériques est simple à comprendre. Quand Facebook, Google, Microsoft ou Twitter jugent qu'une image ou une vidéo relève du terrorisme via son algorithme ou plus probable via son armée de tâcherons du clic recrutés dans les pays les moins riches, ils calculent l'empreinte numérique de ce contenu et ajoutent cette empreinte à une base de données partagée par les 4 entreprises. 4 seulement, hein ? Et donc, ils ont tellement bossé. En décembre 2017, la commission explique que la base de données des contenus réputés terroristes est maintenant pleinement opérationnelle et jusqu'ici réunit plus de 40 000 empreintes. Et la commission annonce que son objectif le plus urgent est maintenant de passer ses efforts à l'échelle afin que toutes les entreprises d'Internet y prennent part. Donc, ces 4 gros gugus qui ont une force de frappe incroyable, vu le pognon qu'on leur fait gagner, ils peuvent s'offrir les meilleurs disques durs, les meilleurs processeurs et bien sûr les meilleurs programmeurs-programmeuses.
Rappelle-moi, c'est des entreprises américaines, milliardaires, faites par des hommes blancs, c'est ça ?
Oui.
Ok.
Et oui, voilà. Et des violeurs de nos vies privées, en plus, eux. Pour de vrai, pour de bon. Oui. Donc, c'est eux, effectivement. Et donc, c'est de là que c'est ce que les 4 grosses légumes ont décidé, c'est que ça allait débouler sur tous les petits.
Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est non pas que ce soit des blancs américains, etc. C'est surtout que ce ne soient pas des Européens qui aient été consultés pour ça.
Et oui.
On n'a pas de développeurs en Europe.
Donc, ils coûtent trop cher.
Ils ne payent pas assez, tu veux dire.
Oui, voilà. Ouais. Peut-être dans ce sens-là.
Donc vous avez entendu les développeurs européens, si vous voulez avoir une voix à la Commission européenne, il faut balancer les bacs chiches.
Un petit peu, ça aide.
Ouais.
Ça aide beaucoup, effectivement. Mais on peut faire du crowdfunding pour contrebalancer un peu le lobbying que fait Microsoft, qui est tout près de la...
Il va falloir qu'on s'allie avec les jeunes du jeudi, là, parce que sinon, on ne va pas avoir assez de gens. Ouais. Hein.
Mais donc, du coup, pour être dans la phase de la fin de la présentation de la genèse de ce projet, Facebook maintenant s'est vanté que aujourd'hui 99% des contenus terroristes liés à ISIS et Al-Qaïda retirés de Facebook sont détectés avant que quiconque de notre communauté ne nous l'ait signalé, et dans certains cas, avant qu'il ne soit mis en ligne sur le site. Nous faisons cela principalement au moyen de systèmes automatisés tels que la concordance de photos ou de vidéos et le machine learning basé sur du texte. Une fois que nous avons connaissance d'un contenu terroriste, nous retirons 83% des copies ultérieurement mises en ligne dans l'heure qui suit la publication. Bingo. Voilà, et donc, fort. Voilà, parce que donc...
Ils n'ont pas de faux positifs, eux.
Computer says no.
D'accord. Tout va bien alors.
Voilà, donc fin 2017, la situation est claire. Facebook et Google ont travaillé pendant 2 ans avec la Commission européenne pour développer des outils censés détecter et retirer des contenus terroristes en 1 heure. Et tout cela autour d'une immense liste noire. La prochaine étape est de pousser les petites plateformes à utiliser ces outils. Je passe une petite page de pub là. Ou allez, les bons vieux clics de quand on ouvrait MSN. C'est pas...
Moi, je n'ai jamais ouvert MSN.
Non plus. Allez, Morphine, Morphine Suite de Célimos. La vie sans quoi ?
Should remain, and I don't know who's to blame, and if the acabar y lo vamos a terminar. El racismo se tiene que acabar y lo vamos a terminar. El racismo se tiene que acabar y lo vamos a terminar. El racismo se tiene que acabar y lo vamos a terminar.
Hola, voilà, on continuait avec Barrio Calavera et un petit ska multiracial de son album Sueña Cale. Yep, voilà, on était parti sur un petit moment de corporate bashing.
Ouais. On finit peut-être sur le.
Oui, enfin.
Sur le premier, là.
Ah, pardon, oui, mais parce était... que là on avait encore pour un. Je crois qu'on faisait une petite parenthèse avec du corporate bashing, parce que là, on n'a pas encore tout à fait fini.
Alors.
Dans la mesure où. Oui, bon,
nouvelle,
là, ça, c'est la théorie.
La nouvelle du jour, c'est Aspirine. Donc, en Italie, il y a une revue féministe qui existe depuis un moment, qui s'appelle Aspirina Rivista Acetil Satirica. Et c'est une petite revue bien rigolote qui a eu le malheur d'être plus maligne que Bayer, le propriétaire de la marque Aspirine, n'est-ce pas, qui a aussi distribué l'héroïne. Voilà. Donc Bayer a attaqué Aspirina, la rivista Acetil Satirica, qui est une toute petite, on parlait d'asymétrie tout à l'heure, bah c'est un autre exemple. Bayer, c'est une immense boîte qui a 150 ans et qui brasse des milliards. Et puis la revue Aspirina, c'est une petite revue locale de gens tout à fait normaux qui s'est donc battue contre Bayer pendant plus d'un an, un an et demi. Pour garder le nom de leur domaine, aspirinalarivista.it. Et du coup, Bayer a fini par gagner parce qu'elles ont jeté l'éponge sur l'aspirine et elles se sont renommées. Donc je vous laisserai découvrir le nom qu'elles ont choisi, c'est assez rigolo. Et donc, elles ont fait un truc assez rigolo aussi, c'est qu'elles ont, au lieu de restituer le domaine à Bayer, elles l'ont vendu à quelqu'un qu'on pourrait regarder sur le Wiz, mais à mon avis, ça ne nous donnerait pas grand renseignement sur qui c'est.
Peut-être un prête-nom. C'est peut-être Monsanto qui l'a racheté pour faire plaisir à Bayer.
Ça pourrait être le cas. Alors, qu'est-ce que nous dit Louise ? Pour l'instant, c'est toujours enregistré à Milan chez le Cercle Coopératif des Femmes. En italien, ça donne Circolo Coop delle Donne Sibilla Arellamo. Et à voir ce qui se passe à suivre. Si vous aimez les petites choses comme ça, à mon avis, Bayer, ça va leur faire drôle d'avoir à refaire leur petite. Et puis surtout, c'est pourquoi ? Mais qu'est-ce qui les motive à faire un truc pareil ? Comme quoi, hein, si vous arrivez à topper les résultats de Google Search, c'est un symbole énorme dans la hiérarchie des symboles médiatiques. Du coup, c'est peut-être ça qu'il faut faire.
Quand tu veux dire topper quelqu'un qui voudrait arriver sur le site directement de Bayer, mais qui tombe
qui tape aspirine,
par le hasard,
aspirine en italien, aspirina.
Et voilà, il tombe
sur
chez
la revue féministe. Voilà.
Ah ouais, et donc, du coup, ça fait moins vite.
Et ça les énerve de ne pas contrôler le monde. Tu comprends, ça les énerve.
Ah oui. Et surtout qu'ils ont payé AdSense. Ça coûte cher pour
ça coûte cher.
Mettre
c'est
des
ça.
Mots en avant.
C'est exactement
Google.
La situation. C'est qu'il y a les pubs qu'ils ont payées et puis après, il y a la revue. Comme quoi, hein, on peut être petit et costaud. Donc voilà, ouais. Fini pour le corporate bashing. On a fait assez de pubs.
Ouais.
Parce qu'ils font plein de trucs dégueulasses. Hein. On va pas. C'est clair que oui, quand t'as mal à la tête, c'est bien tout ça. Mais franchement,
peut faire mieux.
Est-ce que parce que Google donne 5000 balles à un projet libre, ça veut dire que ça nettoie tout ce qu'ils font à côté?
De fait.
Bien sûr que non. Je crois qu'on reviendra sur ce sujet-là dans un mois ou deux.
Là, dans les belles formules, là, j'en ai une toute belle. Bruxelles, le 12 septembre 2018, Commission européenne, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. C'est le document officiel, hein, donc là je suis sur /legal/content/fr/html/url, vraiment, et le truc machin bien. Donc, exposé des motifs. La fatigue. Contexte de la proposition. 1.1. Justification et objectif de la proposition. L'omniprésence de l'Internet permet à ses utilisateurs de communiquer, de travailler, de nouer des contacts, de créer, d'obtenir et de partager des informations et du contenu avec des centaines de millions de personnes dans le monde entier.
Yes!
Les plateformes Internet contribuent considérablement au bien-être économique et social des utilisateurs au sein de l'Union et à l'extérieur. Toutefois, la capacité d'atteindre ce large public à un coût minime attire également les criminels désireux d'utiliser abusivement l'Internet à des fins illicites. Les attentats terroristes perpétrés récemment sur le territoire de l'Union ont montré comment les terroristes abusent de l'Internet pour faire des émules et recruter des sympathisants, virgule, pour préparer et faciliter des activités terroristes, virgule, pour faire l'apologie de leur atrocité et pour exhorter d'autres à leur emboîter le pas et à semer la peur parmi le grand public.
Ça, c'est directement copié de Goebbels, non ?
C'est possible, mais en tout cas, ça commence comme ça. Je veux dire, on se croirait dans un roman des débuts de Georges Simenon, par exemple. Enfin, il y a un peu de poésie, mais en même temps déjà un peu d'émotion. Là. Le thriller s'installe. Et puis après, ça continue avec les contenus à caractère terroriste partagés en ligne à de telles fins, qui sont diffusés par des fournisseurs de services d'hébergement qui permettent le chargement de contenus tiers, ont joué un rôle important dans la radicalisation des, ouvrez les guillemets, loups solitaires, fermez les guillemets, qui, inspirés par ces contenus, ont perpétré plusieurs attentats terroristes récemment en Europe. Il redit un peu ce qu'il avait déjà dit dans le premier chapitre. Hein.
Bon. Qu'est-ce qu'ils ont contre les loups solitaires? Moi, ça m'a très fait plaisir, les loups solitaires, quand j'étais jeune. Il y avait toute une série de livres dont vous êtes le héros, loups solitaires, c'était chouette. Mm-hmm. Et puis les loups, c'est chouette. Et puis généralement, ils ne sont pas en solitaire, ils sont en meute. Et
voilà, tu vois, mais donc là, c'est pour ça qu'ils le mettaient entre guillemets. Tu vois, c'est
comme le loup de Wall Street, en fait, c'est ça dont ils parlent. Sinon...
Ouais, effectivement.
excusez-moi, mais là je vais interrompre le flow.
Attends, c'était Mimi, écoute, là je veux dire qu'à l'échelle mondiale, l'utilisation abusive de l'Internet soulève la question de la responsabilité sociétale particulière
bien,
que
doivent assumer
les plateformes Internet pour protéger les utilisateurs
justement.
Contre l'exposition à des contenus à caractère terroriste.
Dimanche prochain, c'est la réunion mensuelle de Neutrinet.
Oui. Neutrinet, que nous avons déjà reçu ici quelques fois, mais pour rappel, nous aurions de nouveaux auditeurs et auditrices.
Donc, dimanche, si vous vous intéressez aux plateformes, si vous voulez que les plateformes Internet soient chez vous, plutôt que chez eux, vous intéressez donc à WhyYouKnowHost, à la brique Internet,
à l'auto-hébergement,
aux VPN qui sortent aux Pays-Bas plutôt qu'en Belgique, parce que la Belgique censure l'Internet. Parfois, on reçoit des messages quand on visite certains sites qui disent que, ben non, vous n'avez pas le droit. Et pourquoi vous n'avez pas le droit? Parce que vous êtes connecté depuis la Belgique. Ce qui est totalement débile, puisqu'il suffit de prendre un proxy qui sort ailleurs et on n'est plus connecté depuis la Belgique. Voilà. Hop, hop, hop. Là, là, là. Contenu terroriste. Ouais. Et donc, dimanche prochain, voilà, Neutrinet fait sa petite réunion mensuelle au Hack Lab. C'est 46 avenue Princesse Elisabeth.
Princesse Elisabeth, oui, tout à fait.
Dans l'après-midi, à Scarbeck.
Voilà, pour prendre des premiers contacts, voir un peu comment ça marche, comment on jouit de l'auto-hébergement. Et
comment voir comment on peut être terroriste et fort aimable.
Et si on pratique l'auto-hébergement, on est coopérateur, coopératrice chez Netrinet, parce que c'est un format coop. On a donc tous ces documents chez soi et on pratique en même temps l'auto-censure.
Non.
Non,
non,
non, mais ça revient.
Non,
voilà.
Non, hein, c'est, non, moi c'est je me censure bien. Très peu d'ailleurs. Je suis connu pour être une grande gueule et on me le reproche souvent.
Ouais.
Mais c'est pas pour me déplaire.
Alors là, je reviens aussi de la quadrature du net parce que donc ils vous ont prévu aussi montré comment eux voyaient le beau petit Laïus que je mettais un petit peu en boutade juste avant. Donc, mais là, c'était le texte officiel. Et là. Ils en viennent donc à l'idée que c'est un projet inutile, car l'offensive franco-allemande mise en œuvre par la Commission européenne repose sur une hypothèse ancienne et tenace. La propagande de terroristes sur Internet augmenterait le risque d'attaques terroristes. Pourtant, aucun gouvernement ni la Commission n'a jamais produit de preuves objectives pour défendre la réalité de cette hypothèse. Bien au contraire! En 2017, l'UNESCO publiait un rapport analysant 550 études publiées sur la question de la radicalisation en ligne. Il conclut que, ouvrez les guillemets, les données dont on dispose actuellement sur les liens entre l'Internet, les médias sociaux et la radicalisation violente sont très limitées et ne permettent pas encore de tirer des conclusions définitives, fermez les guillemets, et que les données sont insuffisantes pour que l'on puisse conclure à l'existence d'un lien de cause à effet entre la propagande extrémiste et ou le recrutement sur les réseaux sociaux et la radicalisation violente des jeunes. Le rapport souligne que les tentatives pour prévenir la radicalisation violente des jeunes sur l'Internet n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, alors qu'il est clair qu'elles peuvent porter atteinte aux libertés en ligne, en particulier la liberté d'expression.
Donc, l'UNESCO, tu as bien cité l'UNESCO,
j'ai
bien dit,
ça. Ouais, en 2017.
C'est-à-dire cet organe qui fait partie de l'ONU.
Aussi.
L'ONU qui dénonce les violences policières en France, les atteintes aux droits de l'homme, etc. Tandis que la bonne presse, la bonne télévision, Pujadas, Daniel David, Pujadas et ses sbires sur France 24 qui. Dénonce un complot entre l'ONU et la France insoumise parce que comment il y aurait des violences en France mais on nous cacherait des choses. Je vous enjoins à voir la vidéo qui est hallucinatoire sur ça. Et donc effectivement oui d'un côté, tu as l'UNESCO et puis de l'autre côté, tu as la Commission européenne. On est bien d'accord.
C'est ça. Mais donc, c'est comme si à un moment donné, on est totalement dans l'autre entonnoir à l'envers. Mais la Communauté européenne, enfin la Commission en tout cas, a été plus sensible au charme du chant des sirènes, du marketing et du lobbying des GAFAM. Plutôt que l'ONU et l'UNESCO.
Ouais.
Donc là, on passe un peu pour des fiers petits pigeons, sauf s'il y a vraiment une volonté de couper les gens de ce qu'on nous a mis en place il y a 30 ans. On vient de fêter les 30 ans d'Internet il y a 2-3 jours. Là,
du web, là, ouais.
Avec Jamie Lee Jones, mais c'est l'autre, et qui avait peur. Il disait clairement, pour le choper un petit bout de son passage sur un journal télévisé, il avait peur pour la démocratie et pour la liberté d'expression, avec ce qui est en train de se mettre en place. Il y a la Chine qui se ferme sur elle-même, et la Russie aussi a envie de se fermer sur elle-même.
Étonnant.
Oui, parce que c'est grand. Alors, soi-disant, c'est toujours pour ne pas subir
la propagande
extérieure des pays de l'Est.
Mais il n'y a pas de propagande. Non. Il n'y a que de la publicité, voyons.
Bon, ça c'est pour les grands publics, mais il y a le Human Rights Watch, l'équivalent d'Amnesty International pour le net, Access Now notamment, je pense à eux parce qu'on les avait reçus ici aussi, et qui eux ont leur vigile partout dans le monde et avertissent quand un pays, que ce soit l'Indonésie, la Malaisie ou une petite île, qui décide de fermer tel ou tel service internet ou autre, on n'en parle pas. C'est plus petit, mais c'est juste que quand c'est très grand, c'est pour nous dire que ça peut nous pendre au nez aussi. de musique à la vilaine époque du temps où c'était encore un peu l'URSS, qu'on nous montrait ici des files de gens devant des boulangeries, des épiceries, parce que c'était vraiment en pleine crise, et grosse disette pour la population. On nous montrait ça comme si ici on n'avait pas de soucis. Ce qu'on devait leur montrer, c'est que nous on faisait la file devant les guichets automatiques pour tirer de l'argent dans le mur. devant quoi on fait la file?
First world problem.
Yes, voilà. Donc, en matière de lutte contre le terrorisme, ce règlement est donc purement symbolique pour permettre au gouvernement européen de tenir une posture antiterroriste faussement ferme et résolue. Ce règlement s'apprête à confier aux États des pouvoirs de censure politique dont l'effectivité sera, elle, bien réelle. Et ce qui est aussi fort embêtant là-dedans, ce qui m'aide plus loin, c'est que, en fait, ça ne doit plus passer par un juge. C'est carrément au niveau un petit peu en dessous, l'exécutif, c'est la police qui peut décréter si c'est du contenu terroriste ou pas. Et donc d'imposer la fermeture du site. Enfin, la fermeture, non, ils n'ont pas été violents comme ça. Ils vont juste prendre une petite amende de 4% du chiffre d'affaires du site.
Ah ben voilà, c'est une bonne nouvelle pour les non-profits.
Oui.
Donc, chers terroristes, publiez sur des sites sans but lucratif, pardon. Comme ça, vous ne risquerez pas de les mettre en banqueroute.
Ouais.
Sinon, vous pouvez le faire aussi sur Facebook. Mais alors là, il faut vous organiser parce que ils auront des systèmes qui bloquent en une heure n'importe quel contenu signalé comme terroriste entre guillemets.
Mmh.
Et voilà. Et donc ceci 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Ouais.
Alors. Évidemment, comme c'est les quatre, là, on parle des quatre gros hein, qui se vantent, comme tu disais tout à l'heure, de bloquer en une heure tous ces contenus. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est voir en une heure combien de vues ils génèrent. Et comme ça, dire,
oui.
Vous devez, au lieu de dire vous devez bloquer en une heure n'importe quel contenu, vous devez limiter le nombre de vues à tant.
Mmh. Mais donc, ce qui devrait, eux, s'imposer aussi comme autodiscipline, c'est d'attendre une heure avant de poster publiquement quelque chose qu'un utilisateur... C'est un peu ce qui se passe aussi. C'est d'abord analysé par les algorithmes de leur boîte, et puis après par des gens aux Philippines. Hein, si vous avez vu Les Nettoyeurs du Web, documentaire qui était passé sur Arte, qui montrait des gens aux Philippines qui se jetaient des cinquième étage parce que l'horreur des photos, des vidéos qui devaient, eux, avec la vraie intelligence naturelle, hein, trier et filtrer et s'en prendre plein les neurones. Donc voilà, déjà, ça, c'est pas du temps réel. Ça n'arrive jamais sur le net au moment où vous l'avez posté. Ça passe toujours par des espaces, des mémoires tampons. Mais ils devraient attendre, eux, une heure. Parce que donc, les gens qui ne jurent que par l'instantanéité des Instagram, des Twitter et des Facebook, cette instantanéité tombe tout de suite. Toi, tu postes un truc et...
Tu es obligé d'attendre une heure.
Une heure pour que les gens te répondent. Bon, c'est un peu ce qui va se passer quand on enverra des messages vers Mars.
Bah, tu sais, on est passé du fast-food au slow-food, on peut peut-être faire du slow-net.
Du slow-net. Oh, c'est joli comme nom, j'aime bien ça, ce slow-net.
Oui. Arrête tes sornettes, viens faire du slow-net.
Oh oui, attends, mais je sors de mon permafrost et je viens dans ta fermaclic.
Mmh.
Yes, on est effectivement dans une drôle d'impasse à ce niveau-là. Mais donc, il y a ce contexte-là, bon, vous en a fait un résumé un peu clownesque parce que c'est tristement pitoyable et ça, c'est pour éviter la déprime du vendredi soir, vu qu'elle est réservée normalement au lundi matin. Mais abeli-asbl.be, notre site internet qui a déjà eu ses lettres de noblesse et ses micros ouverts ici même, a donc mis à votre disposition pour la belgitude profonde. L'équivalent de la démarche que propose la Quadrature du Net, donc, c'est d'envoyer des missiles de missives à ces dirigeants européens ou pas, tous sénateurs dont vous pouvez avoir la liste, et donc de pouvoir signer une pétition qui va empêcher de tomber donc sur une censure non démocratique, qui risquerait donc de donner au pouvoir exécutif le droit de censurer un contenu déclaré terroriste. C'est au pouvoir judiciaire de trancher ce genre de questions en principe, et donc d'avoir une censure automatique aussi, et donc aveugle, imposée à tous les hébergeurs de contenu, vu que, comme je le disais, Facebook, Google, Microsoft, Twitter se sont dotés d'une base de données commune stockant une empreinte numérique de toute parution jugée terroriste, oui, c'est bien ça, par leurs outils. et donc de les imposer à tout le reste des acteurs de la toile, petits et grands. Donc ça va couler un peu tout le monde. Donc abeli-asbl.be, vous furetez là-dessus et vous avez un modèle de mail à envoyer à une liste de sénateurs de chez nous qui peuvent faire pression. On n'est pas loin des élections du 25 mai non plus, hein, donc ce serait embêtant. Hein.
Le 26 mai, ouais. Et d'ailleurs, il y a un site, je ne sais plus trop où il est, mais il y a un site qui reprend les positions de chaque député ou candidat à la députation européenne par rapport au logiciel libre. Mmh. Pour l'instant, enfin, la dernière fois que je l'ai regardé, il était plutôt vide. Il n'y a pas grand monde qui s'intéresse au libre. Il y a moyen de les interpeller si vous croyez aux élections européennes. Si vous n'y croyez pas, ben c'est le Front National qui passe en France, c'est le PP de Viktor Orban peut-être, puisque apparemment il va réintégrer le PP, il s'est excusé
hein, oui.
pour ses propos
un peu déplacés, ouais.
Complètement fascisant nazi quoi.
Ouais. Et alors il y a aussi Pledge 2019 si vous voulez faire quelque chose de bon pour l'avenir du net et donc de votre liberté d'expression. On en est déjà à 4 950 558 personnes qui ont signé la pétition contre l'article 13 qui est donc de son petit nom les filtres de téléchargement automatiques qui vont donc, comme ils disent, mauvais pour les utilisateurs, censure automatique. Tout ce que nous voulons poster devra préalablement être validé par un système faillible de filtrage a priori, ce qui va donc causer moins d'activité en ligne parce que des millions de sites d'applications de vidéos et autres seront bloqués dans l'Union européenne. Mauvais pour les créateurs car la créativité bloquée, ce sont donc les parodies, les critiques de films, les vidéos, let's play, les mèmes et tout ce qui se base sur du matériel sous droit d'auteur même, ou sans copyleft, seront bloqués par les filtres, donc ce seront coupables jusqu'à preuve du contraire. Les créateurs devront se battre constamment pour contester les erreurs de filtrage. Et c'est donc mauvais pour l'innovation, car les géants encore plus grands d'Internet seront les seuls à avoir les moyens de répondre aux exigences requises. Et donc, moins de nouvelles applications et de sites seront créés en Union européenne en raison des risques trop élevés. Youpi, voilà, donc ça c'est Pledge.
C'est exactement à ce site-là que je faisais référence.
Pledge2019.eu.
Ouais.
Là, vous pouvez voter, enfin, en tout cas, c'est la formule, c'est nous ne voterons que pour les représentants politiques qui auront voté contre l'article 13 et qui disent non au filtre des téléchargements. Pour le moment.
On est presque à 5 millions de personnes qui ont signé la pétition. Si tous les auditeurs de source signent, on éclate les 5 millions.
Ouais, tout à fait. Et là, vous pouvez cliquer sur j'en suis. Vous pouvez demander à être. Contacter quelqu'un en particulier. Enfin, voilà, vous avez toute une liste de sénateurs. Qui eux se sont déjà engagés à voter contre. Donc, pour les prochaines élections du 26 mai, eux, on leur offrira une guimauve et un marshmallow.
Donc, chez les Belges, apparemment, il y a Gerolf Hannemans qui s'est engagé, et c'est le seul.
Bon, voilà, si vous commencez petit, hein. petit pays, petit esprit. Voilà où. Donc pour le panorama de cette fin, de cette mi-mars, de cette fin d'hiver et ce début de printemps, il va donc falloir trouver de belles formules pour garder un peu d'internet ouvert sur Terre, ben, en tout cas en Europe. Mais c'est vrai que c'est pas gagné. Hein tu verrais que la bouteille est à moitié vide ou à moitié remplie.
Tu sais, parce qu'il a moi, je pense qu'il faut boire à la source.
Oh,
donc, dans les autres nouvelles, il y a justement en parlant de source, j'ai oublié la source parce que Mastodon a un problème avec la recherche, les bookmarks, etc. C'est très difficile de retrouver quelque chose quand on l'a laissé passer. Donc moi, j'ai eu le bonheur de cliquer sur les liens, mais j'ai eu le malheur de ne pas laisser une fenêtre ouverte sur ce poste en particulier. Du coup, je suis bien confus de ne pas pouvoir dire qui m'a donné l'info. En revanche, l'info, c'est que le Conseil économique, social et environnemental de la République française, nos chers voisins, par l'intermédiaire de M. Benoît Thiolin, ancien président du Conseil national numérique, et son équipe a posé un dossier de 82 pages sur une politique de souveraineté européenne du numérique, dans lequel il est fait mention, dans la dernière préconisation, la numéro 17, qui est page 44 du document, du logiciel libre. Je vais vous la lire, et puis après on peut peut-être essayer de se faire une analyse.
De... À la sauvage.
Ouais. À la sauvage. Alors, elle est assez courte. Préconisation numéro 17, établir au niveau européen les régulations fondamentales de l'usage des blockchains, c'est marqué en italique, et des logiciels libres, et soutenir leur développement par la mise en place de coopératives de développeurs, l'introduction de quotas dans les appels d'offres publics et le financement de projets répondant à des besoins collectifs au plus près des territoires. Les régulations devront permettre l'émergence de gouvernances non énergivores, ouvertes sur la société civile, et garantir l'interopérabilité et la neutralité des solutions proposées.
Jusque-là, ça sonne bien.
Ça sonne pas mal. Moi, j'ai deux problèmes principaux. Premièrement, blockchain et logiciel libre. What? Donc, ok. Vous avez compris, on n'a pas besoin des blockchains, on va se concentrer sur les logiciels libres. Alors, la mise en place de coopératives de développeurs, c'est génial. Le financement de projets répondant à des besoins collectifs au plus près des territoires, c'est génial. L'émergence de gouvernance non énergivore, je ne sais pas s'il parle d'énergie électrique ou d'énergie... humaine pour ceux qui sont en train de faire leur bilan comptable et leur TVA là. Mais le point moi qui me paraît vraiment sous-exploité, c'est l'introduction de quotas dans les appels d'offres publics. Moi je trouve ça très insuffisant, sauf si le quota est de 100%. À partir du moment où on utilise des fonds publics pour créer du logiciel, il n'y a aucune raison que ce logiciel ne soit pas privé.
En plus,
ouais. Pour information, les rares financements européens qui partent vers du logiciel libre ont tendance à être récupérés. Récemment, il y a un projet qui a reçu 3 ans de financement de la Commission européenne. Le produit a été directement racheté par
Microsoft.
Facebook.
Oh.
T'as presque gagné. D'ailleurs, à ce propos...
Oui, mais c'est parce que t'as pas détaillé ce que c'était comme type de projet. Tu vois, ça aurait pu peut-être me mettre sur la piste. Moi, je dis, Microsoft rachète tout.
Ouais, non, oui, c'est vrai. Bon. C'est un projet de médias sociaux.
Ah ouais, alors là, tu vois, j'aurais peut-être pu dire Facebook.
Ouais. Effectivement. D'ailleurs, appel à nos chers partisans, faut arrêter de dire GAFAM. Faut arrêter de dire GAFAM, parce que dans GAFAM, il n'y a pas IBM, et IBM ayant racheté Red Hat, il faut dire G-Mafia. Voilà. Un nouvel acronyme pour accueillir IBM dans la cour des grands.
La cour des glands, tu parles. Ouais. Ça va être féroce. Yep, voilà, donc c'est une action que vous êtes invité à faire avant le 23 mars. Donc pledge2019.eu. Et abeli-asbl.be pour rejoindre voilà, ce que la Quadrature du Net a déjà bien mis en ligne sur le contrôle terrorisme, enfin, pseudo-terrorisme, enfin, c'est que ça, voilà, ça, tout ça dans un contexte de gilets jaunes, de grève pour le climat et de petites demoiselles qui disent ben non, si la planète fout le camp, j'ai plus besoin d'aller à l'école, pourquoi perdre mon temps?
C'est assez impressionnant, ouais. Et d'ailleurs, je conseille à tous les jeunes qui hésitent encore de lire un livre magnifique de Jacques Rancière qui s'appelle Le Maître Ignorant, qui part de la constatation de Monsieur Jacques Otto, qui était professeur au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe, qui a fait tout un tas de métiers et qui s'est retrouvé à Louvain, à l'époque où c'était très flamand, et lui, il ne parlait pas du tout flamand. Et il a appris le français à des flamands sans parler flamand. C'est une aventure assez intéressante et ça démontre que en faisant preuve d'intelligence, on n'est pas nécessairement obligé de s'abrutir à l'école.
Ouais, tout à fait. Écoute, j'allais passer un dernier petit morceau pour se quitter. C'est justement quand nous sommes à la taverne. La vie sans quoi de Salimos.
Ne vois pas le rapport.
Mais écoute, José Bano, en fait, c'est dans la mesure où bon, on les a déjà reçus ici de manière préparatoire. Mais nubo.coop, c'est fait, c'est conçu, c'est coulé dans la...
Ça y est, et... tu sors de la réunion, là c'est
non,
tout à l'heure.
J'y vais.
D'accord.
Voilà, il y a un petit apéro nubo. Allez, jusque 20h, on va essayer de les rattraper pour la dernière demi-heure.
C'est où alors, pour les auditeurs qui voudraient...
Déjà, faire un petit coucou à l'équipe, c'est à la Maison de la Paix. C'est rue Van Helleweyck, tout près de la Place où j'allais.
Ok.
Voilà, c'est là où il y a l'apéro Nubo. On ne pouvait pas vous le dire en début d'émission, sinon on n'allait plus vous avoir pour vous donner ces adresses importantes comme Pledge 2019. Mais donc c'est la raison pour laquelle nous allons terminer tout doucement et se rendre dans une taverne avec Selimos. Très cher Lekin, merci d'être venu commenter l'actualité de manière désopilante.
Elle est déjà pas mal. Je pense que ça faisait trop longtemps que je n'étais pas venu. Et je crois qu'on va essayer de se rencontrer plus souvent.
Voilà, ce qui nous permettra donc de mettre
des contenus terroristes en ligne.
En ligne aussi, oui, et en ondes. Nous aussi, on va dire, on va être des terroristes. On dit, passer au logiciel libre cette année, c'est le comble du snobisme, parce que l'année prochaine, tout le monde sera dessus.
Oui, alors un petit truc, je ne sais pas si les pouvoirs publics nous écoutent, mais en fait, en Allemagne, quand ils ont interdit le torrenting, donc le téléchargement de données par le protocole très efficace et très efficient de BitTorrent, pour des raisons qui nous dépassent un peu. Eh bien, donc ils se sont mis à surveiller tout ce qui passait sur les torrents et à envoyer des lettres à tous les gens qui utilisaient des torrents. Et donc, les Allemands se sont arrêtés d'utiliser des torrents. Donc, tu vas me dire, waouh, super, c'est efficace et tout. Eh ben non, parce que du coup, ils ont continué de télécharger comme des porcs. Et comment? En utilisant un bon vieux FTP. Voilà. Donc, les
action,
lois...
Action, réaction.
Les lois peuvent arriver. Les techniques sont déjà derrière nous et existantes. Tu vois, il n'y a pas besoin de nouvelles technologies pour... faire en sorte que ça grouille.
Voilà. Un peu d'imagination, un peu de Ripper Café. D'ailleurs, il y en a un ici mardi soir, ici à l'ULB. Le Cercle Polytech vous invite au foyer, le focus foyer culturel et scientifique du Solbosch. Et c'est donc de 18h à 21h. Voilà. Petit plan Ripper Café, do it yourself. Pour apprendre, de manière analogique c'est une chose, mais de manière numérique aussi, on peut tout à fait trouver des solutions quand on a envie de ne pas se laisser marcher sur les index. C'est comme dans les fermaclic, c'est l'outil de travail. Quoi.
Ne vous laissez pas cliquer.
Ouais, ne vous laissez pas cliquer trop vite dessus. Alors on se retrouve très très bientôt, on parlera des petites singularités, du super mastodon qui tourne, grâce à vos merveilleux services et une loyauté implacable pour la libre expression et la libre pensée. Voilà, un mastodon bruxellois, c'est toujours gai d'avoir ça sous le coude, sous le genou. Et voilà, plein d'autres petites choses. Et nubo.coop, donc c'est le chaton qui va déverser sur Bruxelles des terabytes de disques durs pour héberger vos courriers électroniques, vos fichiers et vos données personnelles. Et qui resteront vraiment personnels parce que chaton.org, allez voir un petit peu ce qui se trame là derrière. Mais ça, c'est du côté de la vraie vie, comme on dirait chez d'autres zozos qui vous vendent du bio au prix du caviar.
Je peux expliquer.
A tutti, salut Alekine, à bientôt.
Ciao, ciao.
Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
Le seul incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Radio Campus, une petite claque aux grandes mauvaises radios.
Aïe!